à Washington.
Devant ce microphone, Nanit Talani, il est 21h en temps universel, 16h à Washington. Bienvenue à ce bulletin. Coup d'état manqué au Gabon, des militaires ont tenté de soulever la population en prenant le contrôle de la radio-télévision nationale en l'absence du président Ali Bongo en convalescence à l'étranger. Au Congo-Kinshasa, un collectif catholique organisateur des manifestations anti-Kabila en 2017 et 2018 a dénoncé la complicité entre la coalition au pouvoir et la commission électorale nationale qui a repoussé sine die la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. La conférence épiscopale nationale du Congo avait affirmé connaître le vainqueur de la présidentielle et la coalition au pouvoir Front commun pour le Congo avait accusé la CENCO de violer gravement la constitution. La CENI avait demandé un démenti formel aux évêques. En Sierra Leone, 14 opposants ont été remis en liberté provisoire à Freetown une semaine après leur arrestation lors d'une manifestation contre la détention d'un ancien ministre pour corruption présumée dans une affaire d'achat de matériel militaire. Ces 14 membres de l'ex-parti au pouvoir, l'APC, dont l'ancien vice-ministre de la Santé et un ancien parlementaire, ont été remis en liberté provisoire lors d'une audience devant un tribunal de Freetown. Ils sont accusés de jet de projectiles, troubles à l'ordre public, émeutes et menaces verbales. Au Nigeria, l'armée a été accusée d'atteinte à la liberté de la presse après une descente dans un journal hier. Mais les militaires se sont justifiés en déclarant que le Daily Trust avait compromis la sécurité nationale en publiant les détails de futures opérations contre les islamistes de Boko Haram. Pour l'armée, ces informations avaient donné aux islamistes armés une alerte précoce et qu'en conséquence, le journal a saboté les opérations prévues, mettant la vie des troupes en danger. Des ordinateurs du quotidien ont été saisis et deux journalistes de Maïdougouri ont été arrêtés à la suite d'un article publié en première page sur des plans militaires visant à reprendre aux insurgés la ville de Baga sur les rives du lac Tchad. En Gambie, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant les 22 ans du régime de l'ex-président Yahya Jammeh, a entamé ses auditions 2 ans après le départ du pouvoir de M. Jammeh. Cette structure dispose de pouvoirs d'enquête et pourra, au terme de ses travaux dans 2 ans, recommander des poursuites ou des réparations. Présidée par un ancien diplomate auprès des Nations Unies, la commission comprend 4 femmes, dont la vice-présidente Adlaïs Sossé, et représente l'ensemble des communautés ethniques et religieuses du pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le parquet général de Maputo au Mozambique a assuré coopérer avec les États-Unis et l'Afrique du Sud après l'arrestation la semaine dernière de l'ex-ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang, dans le scandale dit de la dette cachée. M. Chang, âgé de 63 ans, a été arrêté le 29 décembre à Johannesburg sur l'ordre de la justice américaine. Il est accusé de conspiration à des fins d'escroquerie en ligne, fraude aux assurances et blanchiment d'argent pour avoir autorisé en 2013 et 2014 des entreprises publiques à contracter des prêts secrets qui ont plongé son pays dans la crise financière. L'organisation Handicap International a annoncé quitter le Burundi à grand regret en raison notamment de l'obligation faite par le gouvernement burundais du fichage ethnique de ses employés. Handicap International ne s'estime plus en mesure de mener ses projets en tenant compte de l'exigence gouvernementale qui impose donc ce plan de mise en place du quota ethnique au sein des équipes de toutes les ONG présentes au Burundi. Pour cela, l'organisation dit qu'obéir à cette obligation est synonyme d'être complice d'une forme de discrimination ethnique. Le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont rouvert un autre point de passage transfrontalier dans le cadre de la spectaculaire réconciliation entre leurs deux pays. Cette réouverture est un nouveau signe de la normalisation garantissant la libre circulation des biens et des personnes entre les deux pays. Nous allons terminer avec le Conseil de sécurité de l'ONU qui a repoussé une réunion sur l'élection présidentielle en RDC à la demande de l'Afrique du Sud après le report de l'annonce des résultats par la commission électorale. C'est la fin de ces nouvelles. Je vous retrouve dans 1 heure pour un nouveau point sur l'actualité. Restez en contact sur Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet VOA Afrique.
Sur VOA Afrique.
Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. What time does the show start? À quelle heure commence le spectacle? Une question essentielle, un outil qui sert à organiser les rencontres personnelles et professionnelles. What time is the meeting? What time is the interview? What time is the dinner? What time is the conference?
What time do the shows usually start?
En fait, c'est une façon très américaine de raccourcir la phrase. Grammaticalement, on devrait commencer la question par la préposition at. At what time does the show start? At what time is the meeting? At what time is the interview? Ici, Cathy va poser la question au sujet de plusieurs spectacles et de l'heure à laquelle ils commencent d'habitude. What time do the shows usually start?
What time do the shows usually start?
Usually. D'habitude ou en général.
What time do the shows usually start?
They usually start at 2 o'clock.
And when do they end?
They usually end at around 5 o'clock.
Si vous posez la question, when does it start? Ou au pluriel, when do they start? When does it start? It remplace le mot show, spectacle, au singulier. Par exemple, when does the meeting start? When does it start? Dans la phrase que vous venez d'entendre, shows, spectacle, est remplacé par le pronom au pluriel, they. Si on pose la question, when does it start? Quand est-ce que ça commence? Ou au pluriel, when do they start? Il vous faudra forcément demander aussi quand est-ce que le programme finira. When does it end? Au pluriel, when do they end? When does the meeting start? When does the meeting end? When does the conference start? When does the conference end? Écoutez.
The train to Washington leaves at 7.
When do you get back to Washington?
We arrive in Washington around 11.
That's a long day.
It is, but we love going to shows. They're wonderful.
Puisque Pat Miller se rend à New York régulièrement en une journée, la question qu'on lui demande alors est When do you get back?
When do you get back to Washington?
Quand allez-vous revenir? To get back. Revenir. Rentrer. Écoutez et répétez à haute voix.
Listen and repeat. 11 o'clock. The train arrives in New York at 11 o'clock. Two o'clock. The shows usually start at 2 o'clock. Five o'clock. The shows usually end at around 5 o'clock. Seven o'clock. The train leaves New York at 7 o'clock. 11 o'clock. The train arrives in Washington at 11 o'clock.
'Approchons-nous de la gare. Allons au guichet pour acheter un billet. Dans le dialogue, vous entendrez « I'd like a ticket ». J'aimerais, sous-entendu, acheter un billet. En fait, c'est la contraction « I would like a ticket ».«
I'd like a ticket to Denver ».«
I'd like a ticket ». Dans laquelle il est impliqué que la personne veut acheter un billet. « I would like to buy a ticket ». Aux États-Unis, on simplifie « I'd like a ticket. Écoutez.
Listen to the conversation.
Can I help you?
Yes, I'd like a ticket to Denver.
One way or round trip?
Round trip, please.
One moment, please. The next train leaves at 10:30. Is that okay?
Yes, that's fine.
That'll be $60.
60 or 16?
60. 60.
En vendant le billet, le préposé a demandé « One way or round trip ?»«
One way or round trip ?»«
One way, aller simple.
Round trip. Aller-retour. Écoutez de nouveau et répétez.
Listen and repeat.
The next train leaves at 10:30. Is that okay?
Yes, that's fine.
That'll be $60.
$60 or $16?
60. $60.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. English USA vous présente African Voices in Conversation. Des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Un groupe d'élèves a formé un groupe de rap. Ils demandent à leur professeur d'anglais de leur corriger leur texte. Pas toujours facile pour un prof d'anglais. Écoutons les rappeurs et leurs profs. Vous répondrez vrai ou faux, true or false, aux phrases que vous allez entendre. 1. La puissance des mots fait la force du rap. 2. Pour le prof, le rap ce n'est pas un combat. Vous répondrez ensuite à ces trois questions. 1. Quel est le titre de la chanson de ces rappeurs? 2. Comment le prof qualifie-t-il l'anglais utilisé par ses élèves rappeurs? 3. Pourquoi? Vous allez apprendre du vocabulaire relatif à la musique et au rap et d'autres expressions idiomatiques. Vous pourrez montrer votre désaccord de manière polie en utilisant « I'm afraid ». Vous saurez enfin exprimer l'obligation morale avec « should ».
Teacher, sir, can you help us correct the mistakes in our poetry? We want a good poem that uses proper English.
I told you, mistakes are part of learning. You can't correct all your mistakes. Let me see. Enough is enough. Is this the title of a poem or a pamphlet?
No, it's the title of our rap song.
Ah, so a rap song should be called a poem now?
Definitely. Slam poets and rappers are the modern poets.
I see. But I'm afraid some of your words and structures don't seem to be English. I'm afraid I can't understand them.
No problem, sir. What's important is the flow. The fast flow of words. Strong words.
And the rhythm. The beat. The powerful, fast beat.
Take it easy. Cool down. You seem very angry. Rap is not for fighting.
But it is. Rap lyrics should be used to fight for positive change.
Yes, things should change. We're gonna change things everywhere.
What sort of things do you think should change?
Injustice, wars, corruption, unemployment, exploitation.
I see, but I'm not sure. I understand this word, separation. I'm afraid that must be a mistake. You should use the correct word, suffering.
Oh no, sir, that's no mistake. We use separation instead, so it would rhyme with exploitation.
Oh, I see. Well, that must be rapper's English.
No, teacher. Modern poet's English.
Nous avons écouté ces élèves rappeurs et leurs profs d'anglais. L'énoncé 1 est vrai. La puissance des mots fait la force du rap. L'énoncé 2 est vrai. Pour le prof, le rap, ce n'est pas un combat. Voilà les réponses aux questions. 1. Quel est le titre de la chanson de ces rappeurs? Enough is enough. 2. Comment le prof qualifie-t-il l'anglais utilisé par ses élèves rappeurs? D'anglais de rappeur. 3. Pourquoi? Parce que certains mots et structures ne semblent pas être de l'anglais. Écoutez et répétez d'autres expressions idiomatiques.
Take it easy. Cool down.
On peut les utiliser pour dire à quelqu'un en français « doucement » ou « calmez-vous ». Répétez maintenant cette phrase entendue.
Things should change.
Le mot « should » peut exprimer l'obligation morale. Il est suivi de l'infinitif sans « to ». Écoutez ces autres exemples.
So a rap song should be called a poem now?
Rap lyrics should be used to fight for positive change.
What sort of things do you think should change?
Répétez et retenez ces mots relatifs au rap. Beat, rhythm, flow, lyrics. Vous avez écouté et compris ce qui fait la force d'un texte de rap. Vous avez appris des mots clés dans un texte de rap et des idiomes. Vous êtes prêt à changer les choses? Allez-y avec ces rappeurs en utilisant should. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TI. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique. Bienvenue à l'Anglais Express. Vous connaissez sûrement l'expression knockout. En français, on dit KO, mais en fait, c'est un raccourci pour knockout. Knock one's socks off. Si quelque chose vous secoue et vous choque, au point d'en perdre des chaussettes. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Essayons de comprendre cette expression américaine qui semble être très sportive en suivant Anna et Jonathan. Knock one's socks off.
Knock your socks off.
Hey, great job in the play last night. I was really impressed.
Thank you so much. And thank you for coming to the opening night.
Well, I couldn't believe it was you up there. The whole play really knocked my socks off. Maybe it's time you gave up your day job after all.
Knocked your socks off! Cela veut dire que vous êtes épaté et même un peu surpris par quelque chose. Il fut un temps où l'expression voulait vraiment dire avoir battu quelqu'un ou gagné quelqu'un dans un match, comme le chaos. Aujourd'hui, on s'en sert plutôt pour exprimer un sentiment d'admiration, comme on a vu Anna le faire dans la vidéo. Elle était très impressionnée par la prestation de Jonathan dans la pièce de théâtre. It knocked her socks off. As for you, what knocked your socks off? Qu'est-ce qui vous épate? Qu'est-ce qui vous impressionne? Et voilà pour l'Anglais Express.
Aujourd'hui, Martin Lerner va interviewer un jeune musicien dans son appartement. Vous apprendrez à interroger quelqu'un sur l'endroit où il habite et à parler de votre logement. Je vous interrogerai aussi. Aujourd'hui, Martin Lerner va interviewer un jeune musicien dans son appartement. Quelques expressions avant de commencer. A musician, un musicien. Violin, the violin, le violon. My home, mon foyer. My home. A big house, une grande maison. A big house. A small apartment, un petit appartement. A small apartment.
Thank you. Thank you very much. That was wonderful.
You're welcome. Do you like the violin?
I love the violin.
Would you like some coffee or tea?
No, thanks. I want to ask you some questions.
Okay.
You're a young musician. How old are you?
I'm 21 years old.
Do you have a family?
I have a family in Finland. I don't have a family here.
Do you work? Do you have a job?
I'm a musician. I don't work now. I'm a student.
Do you study at the university?
Yes, I do.
Where do you live?
I live here. This is my home. Where do you live?
I live in Baltimore.
Do you live in an apartment?
Yes, I do.
This apartment is very small.
I live in a small apartment, too. It's my home.
I live in a big house in Finland, but this is my home here. Excuse me. Hello, Manny. Come in.
Hi.
Hello. I'm Martin Lerner. How are you?
Hi. I'm Manny.
Mr. Lerner is a reporter. Manny is my friend.
I'm happy to meet you.
Thanks.
Where is your home?
Here.
You live here in this apartment?
No. I don't live in this apartment. I live here in Bloomington. My home is in Bloomington.
My home is very small.
My home is very small, too.
Le mot home, foyer, son chez-soi, signifie l'endroit où vous habitez actuellement. Que ce soit une maison, un appartement, ou votre village, la maison de vos parents, ou n'importe quelle habitation. Écoutez encore ces phrases.
Where do you live?
I live here. This is my home.
Where do you live?
I live in Bloomington. My home is in Bloomington.
Where do you live?
I live in an apartment.
Essayez de répondre à cette question. Where do you live? Vous pouvez répondre de plusieurs façons. Ou par votre quartier, le nom de votre quartier, votre ville ou votre rue. Where do you live? À vous de répondre. Where do you live? Donnez-moi le nom de votre ville ou le nom de votre village. Et vous commencez par I live in.
Where do you live?
Travaillons ensemble. Where do you live? Où habitez-vous? Where do you live? Voilà plusieurs possibilités. Je vais répondre avec vous et pour vous. Where do you live? I live in Kinshasa. Where do you live? I live in Douala. Where do you live? I live in Abidjan. Where is your home? Où est votre foyer? My home is in Casamance, Sénégal. Where is your home? My home is in Chaba, Zaïre. Where is your home? My home is in Douala, Cameroon. Where is your home? My home is in Ivory Coast. Where is your home? My home is in the United States. Where are you from? D'où venez-vous? I'm from Senegal. Where are you from? I'm from the United States. Where are you from? I'm from Zambia. Where are you from? I'm from Kenya. Where are you from? I'm from South Africa. Where are you from? I'm from Ivory Coast. Where are you from? I'm from Burundi. Where do you live? Où habitez-vous? Where is your home? Où est votre foyer? Where are you from? D'où venez-vous? Au cours de la leçon suivante de English USA, Martin Lerner va rencontrer deux musiciens dans l'appartement de l'un d'entre eux et ils parlent de leur travail, de leurs études et de leur logement. Aujourd'hui, vous apprendrez à demander à quelqu'un où il habite, where do you live, maison, appartement, dortoir ou autre. House, maison. House. Apartment, appartement. Apartment. Dormitory, dortoir. Ça, c'est dans le cas d'un collège ou d'une université. Dormitory. How many rooms? Combien de pièces? How many rooms? My home, mon logis ou mon chez-soi, ou mon pays d'origine. My home. Your home, votre maison, ou ta maison, ou votre pays. Your home.
Manny, where do you live in Bloomington?
I live at 526 Hamilton Street.
Do you live in a house?
No, I don't.
Do you live in a dormitory?
No, I don't.
Do you live in an apartment?
Yes, I do. It's very small.
How many rooms does it have?
It has one large room and one very small room.
Une façon de demander à quelqu'un où il habite, c'est de poser une question à laquelle il faudra une réponse. Yes, I do. C'est-à-dire oui. Ou no, I do not. Ou plutôt la contraction qui est plus ordinaire, no, I don't. Non. No, I don't. Écoutez bien ces exemples.
Do you live in a house?
No, I don't.
Do you live in a dormitory?
No, I don't.
Do you live in an apartment?
Yes, I do.
Maintenant, répondez aux questions. Vous allez répondre par l'affirmative, c'est-à-dire yes, I do. Ou le négatif. No, I don't.
That was beautiful.
He's very good.
Thanks. Where are you from?
I'm from Brooklyn. My family is from Russia. It was their home.
Did you live in Russia?
No, I didn't. My home was in Brooklyn.
Quelquefois, on se sert du mot home, logis ou foyer, pour exprimer l'endroit d'où on vient, ville natale ou pays natal, comme on l'a fait tout à l'heure dans la petite revue. Where are you from? I'm from Dakar. Or, ou bien, my home is in Dakar. My home is in Dakar. Ou bien, where are you from? I'm from New York. My home is in Washington.
They lived in Russia. It was their home.
Where are you from?
I'm from Brooklyn. It was my home. I live in Bloomington now.
I'm from Finland. It was my home. I live in Bloomington too.
On va s'exercer avec les phrases interrogatives. Vous allez répondre par yes, I do, ou par no, I don't. Très simple. Do you live in Zaire? Yes, I do. Do you live in Zaire? No, I don't. I live in Senegal. Do you live in the United States? Yes, I do. Where is your home? Vous avez appris, je l'espère, à répondre à la question « Where do you live? Where are you from? And where is your home? » Exercez-vous avec vos amis ou votre famille jusqu'à notre prochaine leçon. Until then, this is Michelle Joseph. Goodbye and thank you for your time. Musique et info.